Merci d'écouter RFI. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est midi et demi en temps universel, 14h30 ici à Paris. Et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. La Mauritanie dans l'attente de la proclamation officielle des résultats de la présidentielle. Le site internet de la commission électorale donne 56% des voix au président sortant Razouani. Des résultats déjà contestés par le militant des droits de l'homme Biran Da Abeid. Au Mali, l'ouverture d'une giga-session judiciaire consacrée aux crimes économiques. Pendant 2 mois, près de 200 accusés seront jugés dans toute une série d'affaires. Une photo où elle échange un baiser avec une autre femme et une déclaration d'amour. La dernière publication de Brenda Biya, la fille du président camerounais, sur ses réseaux sociaux ne passe pas inaperçue dans un pays où l'homosexualité est réprimée. Comme on s'y attendait, le Rassemblement National et ses alliés largement en tête du premier tour des législatives en France. Nous verrons comment ont voté les Français d'Afrique et comment le score inédit de l'extrême droite est commenté sur le continent.
Nous entendrons aussi ce qu'en pense Marc Ona, grande voix de la société civile gabonaise. Il est l'invité d'Afrique Midi.
Au Mali, la cour d'assises de Bamako ouvre aujourd'hui une session spéciale sur les crimes économiques. Pendant 2 mois, 181 accusés doivent comparaître dans toute une série d'affaires. Une session spéciale et monumentale donc, au cours de laquelle, David Bachet, certains scandales retentissants seront jugés.
Oui, et l'un des dossiers les plus attendus ne sera traité qu'à la fin août. C'est celui des ristournes et détournements dans le secteur du coton. Une affaire qui concerne notamment Bakary Togola, l'ancien président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, surnommé le roi du coton. 11 co-accusés comparaîtront à ses côtés. En 2021, Bakary Togola avait été acquitté, puis une procédure en appel avait été engagée. Ce nouveau procès devrait donc clore le dossier. De nombreuses autres affaires de malversations financières, mauvaise gestion et atteinte aux biens publics seront jugées. Elles concernent par exemple l'entreprise ADM, Aéroport du Mali, avec pas moins de 15 accusés, la Somagep, l'entreprise publique qui gère la distribution de l'eau, l'INPS, l'Institut National de Prévoyance Sociale, ou encore l'hôpital du Point G à Bamako.
En revanche, 2 dossiers très attendus ne figurent pas, eux, au programme de cette session.
Le premier concerne l'EDM, Énergie du Mali. Plusieurs hauts cadres de l'entreprise publique d'électricité et l'ancien ministre Seydou Lamine Traoré, en poste au début de la transition et en détention depuis janvier dernier, sont poursuivis dans des affaires de vol de générateurs et de camions-citernes qui avaient défrayé la chronique l'année dernière. Mais l'instruction est officiellement toujours en cours. Ce dossier n'est donc pas au programme de la session qui s'ouvre aujourd'hui, même si d'autres cas de malversation concernant l'EDM seront bien jugés. Autre grande absente, l'affaire des contrats d'équipement militaire qui remonte à 2014. L'ancien Premier ministre Soumaïlou Boubaï Maïga, mort en détention il y a 2 ans, était en prison dans le cadre de ce dossier qui concerne également l'ancienne ministre de l'économie Boiré-Fili Sissoko. Emprisonnée en août 2021, elle clame son innocence et réclame depuis presque 3 ans d'être jugée.
Deux jours après la présidentielle en Mauritanie, le site officiel de la commission électorale crédite le sortant Mohamed Oulcher Razouani de 56% des voix sur 100% des bureaux de vote dépouillés, des chiffres disponibles en ligne, mais toujours pas de proclamation officielle de ces résultats globaux provisoires qui ont été contestés hier soir par l'opposant Biram Da Abeid de Léa Lisa Vestorov.
Sur la base de l'ensemble des bulletins de vote dépouillés, Mohamed Oulcher Razouani détient 56,12% des voix. Voilà ce qu'on peut lire sur la plateforme en ligne de la Commission électorale nationale indépendante, MyCENI. Des résultats provisoires officiels qui doivent encore être proclamés par le président de la CENI dans la journée. En deuxième position, l'opposant et militant des droits de l'homme Biram Da Abeid avec un peu plus de 22% des voix. Pour celui qui est déjà arrivé second lors de la dernière présidentielle, ce résultat est faux et manipulé par une commission électorale entre les mains du pouvoir, selon lui. Biram Da Abeid affirme entre autres que dans 700 bureaux de vote, il y aurait eu des cas de bourrage d'urne. Hier, il a appelé ses militants à des manifestations pacifiques pour contester ces résultats. Peu de temps après ces déclarations, le siège du parti de Biram Da Abeid a été encerclé par la police, l'accès à son QG bouclé par 2 véhicules des forces de l'ordre et des policiers anti-émeutes. Et dans une conférence de presse tardive, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, a affirmé qu'aucune action de nature à perturber la tranquillité des citoyens ne serait tolérée. Léa Lisa Vesterhoff, Nouakchott, RFI.
Une publication sur Instagram qui défraie la chronique au Cameroun. Elle est signée King Nasty, le nom d'artiste de Brenda Biya, la fille du président Paul Biya. La jeune femme de 26 ans, qui a entamé depuis peu une carrière de rappeuse, a publié hier sur ses réseaux sociaux une photo d'elle embrassant une autre femme, une photo accompagnée d'un message de tendresse. Polycarpe Samba, il n'en a pas fallu plus pour enflammer la toile dans un pays où l'homosexualité est encore fortement réprimée.
Oui, sur la photo, les deux femmes apparaissent de profil, suffisamment identifiables cependant pour reconnaître Brenda Bia malgré ses lunettes de soleil. Et Brenda, légende la photo par un petit message de tendresse, je suis folle de toi et je veux que tout le monde le sache. La section commentaires est bloquée, comme si Brenda Bia voulait se prémunir des réactions potentiellement critiques de ses suiveurs. Il n'empêche, son message a été abondamment commenté sur la toile et parmi les multiples réactions, celle de Shakiro, célèbre transgenre et figure de la communauté LGBT+ camerounaise, contrainte il y a quelques années à l'exil en Belgique, après diverses agressions sur et une détention au Cameroun du fait de son orientation sexuelle. La publication félicite Brenda Bia pour son courage. Shakiro la remercie en substance pour son coming out qui pourrait, espère-t-elle, précipiter la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun. Boris Berthold, journaliste en ligne et en exil, interpelle dans un tweet les autorités, les mettant au pied du mur. Il estime qu'il est temps de libérer la vingtaine d'homosexuels détenus dans les prisons camerounaises. Sinon, explique-t-il, faites arrêter la fille du président pour se conformer aux lois du pays qui pénalisent jusqu'à 5 ans de prison la pratique de l'homosexualité.
En République démocratique du Congo, le 64e anniversaire de l'indépendance ce week-end s'est déroulé sur fond d'inquiétude de la progression du M23. Les rebelles soutenus par le Rwanda ont pris vendredi soir la ville de Kanyabayonga puis celle de Kirumba aux portes du Grand Nord Kivu. À Butembo, important carrefour commercial situé 150 km plus au nord, on commence à s'inquiéter sérieusement. Maté Sanane est le président de la coordination urbaine de la société civile de Butembo.
Et ils se disent, si le gouvernement ne fait pas quelque chose, donc ils sont voués à l'échec. Parce qu'ils ne comprennent pas avec la force et avec les hommes, mais ils ne parviennent pas à faire l'offensive. Voilà pourquoi nous sommes dans l'inquiétude. Néanmoins, les gens sont là, ils se disent, bon, voyons ce qui va se passer. Il y en a des personnalités qui se sentent menacées à l'arrivée de l'ennemi et ils se préparent en conséquence. La population, ils se disent qu'être prêt à ce qui va arriver, mais néanmoins, ceux qui ont la possibilité ou ceux qui se sentent ciblés, et ils se déplacent carrément. Et donc, c'est un geste automatique parmi certaines personnalités de la ville.
Propos recueillis par Sidi Yansané. Cette situation sécuritaire a été évoquée par le président Tshisekedi dans son discours pour l'anniversaire de l'indépendance. Le chef de l'État a déclaré que des instructions claires et fermes avaient été données pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Dans son message, il a également vanté son bilan à la tête du pays. Démagogie, répond l'opposition et une partie de la société civile, Pascal Moulégua.
Pour l'opposant Moïse Katumbi, il n'y a rien qui marche, la souffrance est totale.
Je me pose la question si nous pouvons encore fêter le 30 juin. Si je pense à mes frères et sœurs de l'Est qui sont en train de mourir chaque jour, les sociales ne marchent plus. Nous avons de bons juges, mais il y a l'ingérence dans la justice. Nous cultivons seulement la haine, le tribalisme, le népotisme, la criminalité, le banditisme. Au lieu de réduire le train de vie de l'État pour que la population puisse s'en sortir.
64 ans après son indépendance, d'après Moïse Katumbi, la RDC manque de dirigeants visionnaires. Constat partagé par Martin Failou qui accuse Félix Tshisekedi d'être à la base des maux actuels du pays, à commencer par l'insécurité dans l'Est et la corruption.
Il est impératif de faire la lumière sur toutes les affaires de corruption et de détournement des deniers publics répertoriés à ces jours. Tous les voleurs de deniers publics, anciens et nouveaux, doivent être traduits devant la justice. L'Assemblée nationale et le Sénat, comme les autres institutions du pays, dépensent l'argent des Congolais sans aucun devoir de redevabilité.
Le mouvement citoyen La Lucha affirme pour sa part que la colonisation belge, abrogée en 1960, a laissé la place, je cite, à une caste oligarchique tournante. Le mouvement accuse les pouvoirs en place d'avoir hypothéqué l'indépendance et la souveraineté du pays. Pascal Moulégua, Kinshasa, RFI.
L'Afrique du Sud a enfin son nouveau gouvernement, un gouvernement d'union nationale XXL, 75 ministres et ministres adjoints, 9 partis différents sont représentés, Romain Chanson.
La promesse de réduire le nombre de ministères vient de voler en éclats, car il a fallu faire de la place et contenter tout le monde. Certains ministères sont donc appuyés par deux ministères adjoints. Attention à ne pas se marcher sur les pieds. L'Alliance démocratique, le parti arrivé deuxième, obtient 6 ministères. Son chef, John Steenhuisen, est nommé à l'agriculture. Le parti obtient aussi le ministère de l'Intérieur, en pleine réforme de l'immigration, et alors que le processus d'attribution des visas est défaillant. En revanche, l'ANC conserve les affaires étrangères, sorte de domaine protégé, où est promu le jeune Ronald Lamola, qui s'est illustré en portant l'accusation de génocide à Gaza contre Israël devant la Cour internationale de justice. Autre nomination marquante, le politicien xénophobe Gayton McKenzie, qui rêvait de l'intérieur ou de la police, doit se contenter des sports et de la culture. Et puis le chef du parti Afrikaner Freedom Front Plus, une minorité au pouvoir sous le régime d'apartheid, devient ministre des prisons. Le gouvernement est donc un alliage hétéroclite de partis très différents, un gouvernement gonflé à l'hélium que ses opposants essaieront de faire éclater en vol. Romain Chanson, Johannesburg, RFI.
Il est 14h41 à Paris.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, Nicolas Suron reviendra sur le premier tour des élections législatives en France.
Oui, nous verrons d'abord pour qui ont voté les Français d'Afrique. Des réactions également au très bon score du Rassemblement National et de ses alliés arrivés en tête avec 33% des voix à Dakar et à N'Djamena. Et puis les sports, le championnat d'Afrique de rugby à 7 est en cours sur l'île Maurice. En plus bref, dans l'actualité africaine de ce lundi au Bénin, Patrice Talon rencontre ses prédécesseurs Nice Forsoglo et Boni Yayi à la présidence de la République. Ils doivent rendre compte de leur mission d'apaisement. À Niamey, ils y avaient rencontré le 24 juin le chef de la junte nigérienne, le général Tiani. Le premier tour des élections législatives avec une poussée du Rassemblement national et de ses alliés aux allures de raz-de-marée en France, mais pas à l'étranger en tout cas, pas en Afrique, où dans les 9e et 10e circonscriptions des Français de l'étranger, les résultats sont différents de la métropole, Frédéric Gara.
Oui, Nicolas, deux circonscriptions. L'une, la 9e, qui va de la Libye jusqu'au Gabon en suivant le pourtour ouest-africain, soit 16 pays et 130 000 inscrits au total. Et l'autre, la 10e, qui comprend entre autres l'Afrique du Sud, le Mozambique, les Comores, Madagascar, Maurice ou bien Djibouti. Un total de 28 pays, 113 000 inscrits dans ces pays. Dans cette dernière circonscription, les candidats qui sortent en tête du scrutin sont Elsa Di Meo pour le nouveau Front Populaire qui remporte 32,52% des suffrages, talonné par la candidate d'ensemble, Amelia Lacrafi, qui se voit crédité de 31,82% des voix. Troisième, le candidat d'extrême droite, Jean de Veyron, qui au nom du Rassemblement National se voit crédité de 17,16% des suffrages. Il y aura donc un second tour opposant Elsa Di Meo à Amelia Lacrafi dimanche prochain. Dans la 9e circonscription des Français de l'étranger, le député sortant Karim Bencher a récolté 51,57% des voix devant la candidate Renaissance Ensemble Samira Djouadi, 15,70%, et Élodie Charon pour le RN, 10,64%. Karim Bencher, plus de 50% des suffrages, mais pas réélu pour autant, car le quorum des inscrits n'a pas été atteint. Il y aura donc un second tour entre le Front Populaire et Ensemble dimanche prochain dans cette 9e circonscription.
Comment sont perçus les résultats et la progression du RN sur le continent africain ? Au Sénégal, la visite de Marine Le Pen l'an dernier avait provoqué un tollé, mais certains y apprécient aussi son discours souverainiste. À Dakar, le reportage de Juliette Dubois.
Sur la plage, Ibrahima Diop et ses amis prennent le thé. L'actualité française semble loin, mais tous ont entendu parler du Rassemblement National et des élections dans les médias et sur les réseaux sociaux. Le score historiquement élevé du Rassemblement National ce soir ne les choque pas.
Moi je me dis, un pays, les citoyens, si c'est les citoyens qui ont voté pour eux, c'est pas un problème. Moi on est dans un monde que peut-être il y a un grand changement.
Donc peut-être que les Français aussi veulent un nouveau changement, nouvelle ère. Puisque Macron, je ne sais pas maintenant, c'est comme Macky Sall dans le passé.
Daouda, lui, est même admiratif de Marine Le Pen.
Je me suis dit que si toutefois que Marine Le Pen gagne, pour moi, c'est bien pour la France. Parce que Marine Le Pen, c'est une femme qui aime la France, qui aime le développement français.
Modou, maître nageur, apprécie aussi le côté souverainiste du RN, mais le discours du parti sur l'immigration le fait tiquer.
Je l'ai une fois entendu, il disait pratiquement comme si les immigrés n'ont pas quoi apporter en France. Ils se trompent parce que les immigrés qui sont là-bas, ils font le travail que le peuple français ne font pas. Ouais, dans les maisons de retraite.
Ibrahima, projeteur en génie civil, part s'installer en France cet été et relativise l'idée d'un futur gouvernement RN.
Je ne suis jamais inquiet parce que je n'ai pas un objectif pour dire que oui, je veux rester en France, des trucs comme ça. Moi, je suis bien dans mon pays. Si je ne sens pas bien d'être en France, il y a d'autres pays qui sont là.
En visite à Dakar en 2023, Marine Le Pen avait évoqué l'idée d'un co-développement euro-africain. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Et dans quelques minutes, le point de vue d'une grande figure de la société civile du continent, le Gabonais Marc Ona, qui est notre invité. Retour à la Mauritanie, à présent, où la Commission électorale nationale indépendante vient d'annoncer à la presse la réélection dès le premier tour du président sortant Mohamed Doulcher El Razouani. Il obtient, selon les chiffres de la commission électorale, 56,12% des voix. Il devance largement, selon ses chiffres officiels provisoires, son principal rival, le militant anti-esclavagiste Biram Dahabeid, qui est crédité de 22,10% des voix. Biram Dahabeid, qui avait annoncé hier qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats de la commission électorale. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. Les sports, l'île Maurice accueille la Coupe d'Afrique de rugby à 7. 12 sélections participent à cette compétition qui se déroule sur deux week-ends. Le premier d'entre eux s'est achevé hier dans une chaude ambiance. À Port-Louis, le reportage d'Abdoulaye Arali.
Présent régulièrement depuis 5 ans dans les compétitions continentales, le rugby à 7 mauricien vit un moment de gloire avec l'organisation de la Coupe d'Afrique, même si le résultat n'est pas au rendez-vous. Alexis Merle, capitaine de la sélection de Maurice.
Match compliqué contre le Kenya, et on s'attendait forcément le Kenya. Et contre les Malgaches, grosse déception.
Les Malgaches, champions de l'océan Indien, se sont hissés en finale du premier week-end de compétition, finale qu'ils ont perdue contre l'Ouganda. Parmi les 12 sélections sur le plateau, on découvre aussi l'Algérie en quête d'expérience, précise son coach Gabriel Auriol.
Ah, le but, c'est de faire émerger des talents qui accrochent le groupe qui fera la prochaine participation au tournoi qualificatif olympique pour les Jeux de Los Angeles.
La compétition a lieu dans le village de Mapou, au nord de Maurice, devant de jeunes spectateurs. Parmi eux, Pierre et Tom étaient au premier rang.
Aujourd'hui, je suis pour Maurice, mais vu que Maurice sont éliminés, je suis pour l'Afrique du Sud.
Je supporte plus d'équipe, mais je pense que la finale, ça va être l'Afrique du Sud contre le Kenya, et le Kenya va gagner.
Rendez-vous dans une semaine pour savoir si notre jeune pronostiqueur a vu juste. Abdullah Erali, Port-Louis, RFI.
Il est 16h47 à Port-Louis. Anne Cantenaire, les grands titres de ce lundi 1er juillet 2024.
Les tractations politiques et les différentes stratégies en France au lendemain du premier tour des législatives anticipées, on en parlait tout à l'heure. Le Rassemblement national est largement en tête et si la gauche a promis de faire barrage et de retirer systématiquement ses candidats en cas de triangulaire, c'est nettement moins clair au sein de la majorité sortante. Certains responsables refusent de se désister si le candidat opposé fait partie de la France insoumise. Il reste un peu plus de 24 heures aux candidats pour faire connaître leur décision. De nouveaux bombardements à Gaza, la guerre se poursuit et dans ce contexte, on apprend la libération du directeur de l'hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza. Il a passé plus de 7 mois en détention et accuse Israël de torture. La justice espagnole refuse d'appliquer la loi d'amnistie des indépendantistes catalans. Elle annonce aujourd'hui qu'elle maintient le mandat d'arrêt contre Carles Puigdemont. Et puis une étape très symbolique en France, deux célèbres réalisateurs de cinéma, Benoît Jacquot et Jacques Doyon, sont en garde à vue dans le cadre de l'enquête pour viol et agression sexuelle qui les vise après des révélations de plusieurs femmes et notamment de l'actrice Judith Godrèche. Et on va revenir maintenant, Nicolas, justement sur les résultats du premier tour des élections législatives en France.
Oui, le Rassemblement national est arrivé largement en tête et demande à présent une majorité absolue dimanche prochain à ses électeurs. Figure de la société civile gabonaise et aujourd'hui troisième vice-président du Sénat dans ce pays, Marc Ona Essangui a suivi ce scrutin français avec intérêt. Il est l'invité de Kaourou Magassa.
Marc Ona Essangui, bonjour.
Bonjour.
Les résultats des élections législatives françaises donnent au niveau national la victoire du Rassemblement national. Ce parti d'extrême droite vise et est toujours en lice pour avoir une majorité absolue à l'Assemblée dans une semaine. Comment réagissez-vous ?
Les Français ont exprimé leur volonté de voir la France changer. C'est l'expression du peuple et c'est une expression souveraine. Je pense qu'on doit respecter cette expression. Si le Rassemblement national est aujourd'hui en tête des suffrages, cela voudrait tout simplement dire que les Français estiment que le Rassemblement national doit diriger la France.
Et est-ce qu'il y a des craintes d'une victoire du Rassemblement national pour les Africains ?
Ben écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes sur cette histoire pour les Africains. La France appartient aux Français. Ce sont les Français qui s'expriment. Maintenant, imaginons que Bardella soit Premier ministre. Entre le discours politique et la réalité du pouvoir, je pense qu'il y a une différence à faire. Moi, Africain, je ne pense pas que nous soyons inquiets. Si on est inquiet en Afrique, est-ce que cela voudrait dire que les Français aussi devraient être inquiets quand ils sont ici ?
Oui, mais il y a quand même eu, malgré tout, beaucoup de commentaires sur l'élection française sur le continent africain. Le programme du Rassemblement national vise à restreindre la migration dans le pays. Au vu des résultats d'hier et l'arrivée probable au pouvoir de l'extrême droite, il n'y a pas des risques quand même pour les Africains ou pour les Afro-descendants qui vivent en France ?
Alors, si vous suivez les campagnes électorales dans les différents pays en Afrique, le discours qui est porté sur l'immigration est un discours qu'on retrouve dans tous les peuples. C'est le populisme. Alors, face à ce populisme, quelle est la réalité ? Les hommes politiques qui discourent ne sont pas toujours ceux qui mettent leur discours en pratique. Je suis sûr qu'aujourd'hui, Bardella, à la tête du gouvernement français, ne pourra jamais appliquer ce qu'il a prononcé comme discours. Ce sont des discours populistes pour se faire élire.
Mais selon vous, que va changer la reconfiguration politique en France qui s'annonce ? Quel impact cela pourrait-il avoir pour le continent africain sur le plan économique et politique ?
Je pense que ce sont les relations de coopération entre la France et les pays africains qui vont s'imposer. Je suis gabonais. Ce qui m'intéresse, c'est la relation entre la France et le Gabon. Chaque pays définit la politique de coopération avec tous les partenaires internationaux. C'est valable pour la France, c'est valable pour la Chine, pour la Russie, pour les États-Unis. Je ne pense pas que nous soyons esclaves d'une certaine vision entre la France et l'Afrique. Non, chaque pays va définir sa politique.
Avec la perte probable de sa majorité, une cohabitation, est-ce selon vous la fin de la politique africaine d'Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron promettait d'ailleurs la rupture avec ses prédécesseurs. A-t-il selon vous réussi son pari ?
C'est le même discours que Hollande avait tenu, le même discours que Chirac avait tenu, mais on a vu exactement ce qui s'est passé. Je pense qu'il faudrait tout simplement que la vision de la France sur beaucoup de pays africains, il faudrait changer de vision. La vision qui consiste à venir exploiter nos ressources tout simplement, sans pour autant assurer ce transfert de technologie, il faudrait absolument que cette vision change. Il faudrait aussi que les Africains sachent que 60 ans plus tard, si nous ne sommes pas capables de mettre les moyens, de créer des structures, des multinationales pour exploiter nous-mêmes nos ressources et les mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin, nous serons toujours dans cette situation.
Vous avez des espoirs de changement des relations entre la France et les pays africains ?
Tout dépend du rapport de force que les Africains vont mettre sur la balance. Pas dans le populisme, mais dans les faits. Les Africains doivent prendre leurs responsabilités pour se débarrasser des facteurs de sous-développement. C'est ce débat qu'on doit avoir, pas le débat de bouc émissaire ou d'accusation de tel ou tel qui voudrait appauvrir l'Afrique. Et ce qui est contradictoire dans le discours de certains Africains, c'est de penser que voilà, on va chasser la France, on va chasser le colon, et puis on va se jeter dans les bras de la Russie, de la Chine et autres. Mais on ne peut pas être aussi incohérent. Si nous voulons nous débarrasser de tout ce qui, pour beaucoup, est à l'origine de notre sous-développement, ben, il faut tenir un discours qui engage les Africains pour se développer. Parce que nous avons tout. Nous avons la ressource naturelle, nous avons la ressource humaine, nous avons tout.
Marc Onaïsangui, merci.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Entretien avec Kaoru Magassa, retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications. Et on part à présent pour le lac Albert entre la RDC et l'Ouganda. C'est l'un des plus riches en poissons de la région. Mais la surexploitation menace le renouvellement des espèces. Des mesures de sauvegarde ont été prises côté congolais. Mais cela a un impact sur l'activité des pêcheurs locaux. Au village portuaire de Kasseni, le reportage de l'envoyé spécial de RFI, Coralie Pierret.
Une dizaine de pêcheurs hissent la pirogue jusqu'à la berge. La pêche est maigre ce matin de mai à Cassény. Nombreux sont les résidents qui se sont tournés vers l'import-export, explique un manutentionnaire.
Comme les pêches, c'est le principal travail d'ici. Mais notre pêche d'aujourd'hui ne donne pas de poissons, tout ça. On ne sait pas s'il y a les manquements des matériaux pour les pêches ici.
La RDC a interdit l'utilisation de certains filets à petite maille. L'objectif, lutter contre la surpêche et favoriser la reproduction des poissons. Des zones de frayeur ont aussi été délimitées. Régulièrement, les services congolais détruisent les matériaux hors normes et arrêtent les pêcheurs illégaux. Mais en face, côté ougandais, les règles sont différentes.
Les poissons viennent de l'Ouganda, car ici, au Congo, il y a beaucoup de patrouilles.
Depuis son étal, Tina détaille son commerce de vendeuse de poissons.
Il y a des gens qui pêchent en Ouganda, d'autres qui achètent et qui nous ramènent le poisson ici. Nous, les vendeuses, nous achetons en gros. Puis nous vendons au détail aux clients de Bunia, Mongwalu, Komanda, Mambasa, Beni, Ocha. Nous amenons les poissons de l'Ouganda jusqu'ici au Congo.
Résultat, la concurrence est rude et les pêcheurs congolais se retrouvent souvent sans emploi. Christophe Lonama est le président provincial de la Fédération des entreprises du Congo.
Nous avons un constat amer, comme il y a baisse de production. S'il y a baisse de production, vous voyez, ça va créer maintenant le chômage. C'est ce qui n'est pas bon. Dans les années avant, les poissons de la Caribe, on l'exportait un peu partout, comme il y avait quantité. Alors maintenant, là, il y a une diminution sensible de quantité de poissons. Il y a même disparition de certaines espèces dans les lacs. Et suite au non-respect des zones de frayeur, et suite à l'usage des filets prohibés.
Le lac Albert est déjà considéré comme vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature en raison de la pollution liée à la présence humaine autour du lac. Le projet pétrolier de Total sur les rives du lac, côté Ouganda, inquiète aussi les écologistes. Coralie Pierret, de retour de Cassény, RFI.
Indépendance, tcha tcha, Tosoumiye.
Et puis à Kinshasa, on a appris ce week-end la mort de Petit Pierre, le batteur de l'African Jazz, l'orchestre culte de Joseph Kabasele, qui avait composé Indépendance Tcha-Tcha, l'hymne mythique des indépendances africaines. Petit Pierre, Pierre Yantula Bobina Elengeza de son vrai nom, est décédé samedi à l'âge de 83 ans. Que s'achève cette édition d'Afrique Midi, réalisée et préparée avec Laurent Chaffard, Mickaël Goncalves et Pierre Vallée. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un peu plus d'une minute, vous retrouvez Anne Kantner pour le journal de Haïti et des Amériques.
Priorité santé.
Chantal Laureau vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Pourquoi se sent-on incompris ? Comment reprendre confiance en soi et aller vers les autres ?
Mercredi.
Comment changer le regard sur le bégaiement ?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 71 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Le Festival international Nuit d'Afrique, le rendez-vous des musiques du monde au Canada, se tient du 9 au 21 juillet à Montréal. Au programme, concerts et activités, en salle et en plein air, avec plus de 700 artistes d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine. Une expérience festive et riche en découvertes pour un voyage musical planétaire. Plus d'informations sur festivalnuitdafrique.com, en partenariat avec RFI.
milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Polygamie, de l'intimité des foyers au sommet de l'État, comment les femmes en parlent.
Mercredi.
Apprendre à nager, comment rendre accessible ce savoir essentiel de sécurité publique.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.